Edith Wharton, Les Marocaines chez elles. Chapitre 1. Entre les rangs immobiles de la garde, nous traversons la cour d'honneur brûlée de soleil. Sur le seuil d'une porte, une négresse nous attend qui nous mène à travers une autre cour, toute dallée de faïence polychrome, celle qui précède les appartements de cérémonie du grand chef. Nous passons par une troisième porte, gardée par le chef des eunuques, un grand noir aux yeux d'émail. Ensuite, c'est le dédale des petits patios secrets où bruit l'eau des fontaines et des couloirs interminables grouillants d'esclaves en vêtements grisâtres qui se rangent contre le mur pour nous laisser passer. De grandes pièces donnent sur ces couloirs, cuisine, office, lavoir, on ne sait quoi. Curieuses, les négresses nous regardent du seuil, accourues au bruit de notre arrivée. Voici, dans un coin, sur un banc garni de nattes, un esclave qui surveille trois ou quatre grands perroquets gris perchés sur le haut de leur cage. Ensuite, au bout d'un autre couloir, un escalier en bois très étroit que nous montons. Sur le premier palier, une jeune femme parée, gracieuse et parée, en robe de fête et babouche brodée d'or. Toute souriante, elle nous tend la main, nous regarde avec de grands yeux accueillants, et nous accompagne en gazouillant des mots, hélas, incompréhensibles. Un deuxième palier, une deuxième apparition. Cette fois, c'est une petite créature toute jeune, gaie, rougissante, engoncée dans son splendide caftan de brocart rouge lamé d'argent, avec la large ceinture de tissu d'or de fesses, raide comme un corset, et sur le front, un diadème serti de pierre. Elle aussi nous prend la main, nous sourit, nous accompagne avec un joli babil d'oiseau. Puis une troisième nous rejoint au troisième étage et guidée, entourée, nous gagnons enfin un grand mirador tout en haut du palais, d'où, à travers les nombreuses fenêtres, on voit la plaine poussiéreuse bordée de vieux murs rouges, la ville blanche qui les surmonte et l'étincellement glauque de l'Atlantique. Mais voici encore d'autres jeunes femmes qui arrivent, toute jolie, avec une joliesse particulière que je ne verrai nulle part ailleurs au cours de mon voyage. D'où viennent-elles ces femmes au rond visage, aux pommettes légèrement saillantes, aux beaux yeux asiatiques un peu bridés, au teint brun et rosé de grenat de mûre? Leurs fortes lèvres rouges s'ouvrent dans un sourire infiniment doux, sur les mêmes jolies dents, les mêmes mains souples et brunes sortent des lourdes manches de leur caftan. Et toutes, elles ont les mêmes mouvements jeunes et vifs, un peu entravés par les costumes de gala révolus pour la grande fête rituelle. Ces costumes, elles les garderont jusqu'au soir, car le maître doit faire venir les chanteuses pour égayer leur après-midi. Je cherche, tout en échangeant des compliments par l'intermédiaire de notre interprète, à noter les détails de leurs costumes. Mais comment décrire ce savant fouillis de gaze claire jeté sur les lourds brocarts, le joli mouvement donné aux draperies par les épais sautoirs de soie à gros passants d'or qui sont glissés sous les aisselles et relèvent les lourdes manches, le bouffant des beaux tissus formant des plis à la véronaise au-dessus des larges ceintures rigides, et surtout la complication extraordinaire des coiffures. Les cheveux noirs, crêpelés, rasés sur les fronts bombés, ne font qu'une ligne noire sous le diadème d'or ou la bande de gaze qu'un bijou retient au-dessus des sourcils arqués. Puis vient le lourd échafaudage de nattes noires mêlées de laine noire et dessinant derrière la tête la courbe d'une double anse dont le haut est voilé par un enroulement de gaze légère sur un fichu de soie à couleurs éclatantes. De chaque côté du visage, d'autres nattes retombent sur les oreilles chargées de lourdes boucles d'oreilles, pendeloques de corail, grands anneaux d'or sertis d'émeraudes ou de perles, bijoux de juifs fabriqués dans les mélas bleus des villes blanches. Et des colliers sans nombre retombent sur le chatoiement du riche caftan, au-dessus de la petite ruche à la watteau en gaze rose, ou bleu, ou blanche, montée sur un étroit tour de cou de velours noir. Colliers d'or, d'ambre, de corail, mélange baroque d'amulettes et de pierres frustes, sertis dans la même orfèvrerie du méla. Tout cela forme un ensemble d'un éclat extraordinaire, où les gazes roses se mêlent aux brochets bleus et or, les gazes blanches aux soies vieux roses et aux ceintures vert pomme ou violet. Et à travers le groupe se faufile un petit négrillon à frimousse de zamor, dont le caftan violet, lamé d'argent, et ceint d'une belle écharpe de soie framboise. Les jeunes femmes ont déposé leurs babouches dorées au seuil du mirador. Du pas léger et silencieux de leurs pieds nus teints de henné, elles nous guident vers les divans qui entourent la pièce. À chaque mouvement, un parfum subtil se détache de leur draperie, une odeur d'ambre, de bois de santal et d'eau de rose. Elles nous regardent toujours avec leurs grands yeux doux et curieux, étudiant les détails de nos pauvres tailleurs, de nos ridicules chaussures, tandis que leurs pieds couleur d'écorce de grenade apparaissent sous les plis volumineux de leurs belles robes. Sans doute, elles nous trouvent d'une élégance extraordinaire et nous envient nos pauvres jupes en laine, nos blouses chemisiers et tout ce qui, dans notre costume pratique et si peu pictural, ressemble le moins à leurs somptueux atours. Car le même instinct puéril qui nous pousse, nous, femmes occidentales et affranchies, vers toutes les extravagances de la mode, quelle que soit sa laideur ou sa pauvreté, fait sans doute que ces princesses de rêve brûlent d'échanger leurs babouches dorées pour nos Oxford en cuir jaune, leurs lumineux brocarts pour nos tristes cheviottes. Nous devinons même que ce qu'elles nous envient le moins, c'est peut-être ce que nous avons de mieux, la finesse plus sobre des bijoux, les raffinements du linge que l'on ne voit pas. Le mirador où nous sommes assises donne sur une grande pièce, longue galerie, dominant tous les autres bâtiments du palais, et dont les fenêtres donnent d'un côté sur la mer, de l'autre sur la ville blanche et la plaine rouge. Au bout de cette galerie se trouve un grand lit de parade surélevé sur une estrade. Les deux pièces sont pavées de carreaux de faïence sur lesquels sont jetés des tapis marocains modernes aux tons trop violents. Le long des murs sont rangés des divans matelas recouverts d'une espèce de toile bise à larges rayures sur lesquels sont amoncelés des coussins sans nombre, la plupart voilés de housses en mousseline blanche à semis. À vrai dire, c'est le tissu dont sont faits les plus humbles rideaux de vitrage en Europe. Quelques fauteuils dorés, d'un vague Louis-Philippe, italien ou espagnol, et recouverts de lampasses claires, sont groupés sur des tapis. Mais le principal ornement des deux pièces est formé par la longue série de pendules alignées contre les murs. Les pendules ont été, de tout temps, l'ornement préféré des palais musulmans. Partout, elles témoignent du luxe et du raffinement du maître de la maison. Mais ce qui distingue celles qui entourent les deux pièces où nous nous trouvons, c'est leur taille gigantesque, disproportionnée. Il y en a de la forme allongée et monumentale des grandes pendules anglaises ou hollandaises, faites pour être posées par terre dans les halls ou sur les paliers d'escalier. Mais entre celles-ci s'en trouvent d'autres qui ont, elles, la forme massive des pendules Louis XIII à fronton, qui se placent ordinairement sur un meuble ou sur une cheminée, et ces dernières, également, sont démesurément grandes et, placées par terre, font l'effet d'une rangée d'armoires. En dehors des horloges, nul bibelot, sauf un seul bronze banal, dans l'une ou l'autre des deux pièces. Mais voici qu'une des deux femmes nous fait signe de nous approcher des fenêtres de l'étroite loggia qui règne autour du mirador, et d'où l'on domine la cour d'honneur et les approches du palais. Ces fenêtres sont en vitraux de couleur, de tons crus et heurtés comme les tapis étalés sous nos pieds. On nous fait signe de les ouvrir, mais prudemment, sans trop nous laisser voir. Puis le petit groupe se retire en riant au milieu de la pièce, afin de ne pas être vu par-dessus les épaules des femmes roumies qui, étourdiment, se penchent dehors. Au-delà des murs de la cour, du côté des grandes tentes rituelles, un nuage de poussière rouge s'élève. À travers son voile, nous devinons le déploiement de la dernière tribu, galopant sous son étendard vers les portes de la ville, la cérémonie terminée. Puis la poussière tombe, ne laissant dans l'atmosphère accablée de chaleur qu'une traînée de vapeur rose, et voici que s'avance vers nous une procession lente et blanche. Sur les pentes nues autour du palais, des salves d'artillerie éclatent et la marche solennelle du défilé continue à travers la fumée des pièces juchées sur les talus. Les portes de la grande cour s'ouvrent. Les caïds, les chambellans, grands dignitaires de la maison, accourent, tout de blanc drapé, baisent l'étrier du maître, le bord de ses gazes neigeuses. Puis la procession, à pied, traverse la cour intérieure dallée de faïence, entre une double rangée de serviteurs et va s'engouffrer sous l'arc outrepassé des salles de cérémonie du fond. Subitement, on nous fait signe de nouveau et nous rentrons de la loggia. une femme plus âgée, qui paraîtrait une vieille femme chez nous, mais qui n'a peut-être pas 50 ans, vient d'arriver. Nous savons que c'est la mère du seigneur de Séan, et même si nous ne l'avions pas su, nous aurions deviné que nous nous trouvions en présence d'une personne d'un rang exalté. Respectueuses et caressantes, les jeunes femmes l'entourent et elles s'avancent vers nous, petites, trapues, brunes et ridées comme une vieille grenade, mais si noblement majestueuses, sous sa coiffure de multiples fichus de gaz, qu'elles semblent porter une couronne. À chacune de nous, elle donne sa petite main grasse, puis elle s'assoit et cause, sereine, souriante, mais si alerte, si humaine en comparaison des autres, ces jeunes créatures, toutes si puérilement pareilles, et que nous semblons toujours voir à travers la gaze décevante d'un décor de théâtre. La vieille princesse, elle, est circassienne. Elle vient du pays des belles femmes, de celles qui ont toujours été les plus recherchées pour les harems princiers. Et peut-être, elle aussi, a-t-elle été très belle. Ce qui frappe en elle maintenant, c'est surtout l'intelligence alerte de sa figure, à la fois astucieuse et bienveillante. C'est l'étincellement des yeux noirs, le sourire ironique et indulgent des lèvres ridées. C'est surtout la dignité de la vieille femme qui ne cherche pas à se rajeunir, mais qui porte avec fierté l'empreinte des années et de l'expérience. On l'a dit, une femme remarquable, le conseiller respectueusement écouté de son fils, et l'on devine que son intelligence s'est toujours exercée, ne s'est jamais laissée assoupir dans la molle torpeur du harem. C'est par là que nous nous sentons, nous autres occidentales, subitement si près d'elle, malgré l'obstacle de la langue inconnue. Un cerveau vit derrière ce beau front chargé de voiles et nous regarde par ses yeux vifs, qui sont comme deux fenêtres ouvertes dans le mur impénétrable du sérail.